Le 2 décembre 1964. Il est tout d'abord question d'une disciple occidentale qui a écrit à maître pour lui demander de changer de travail ou d'arrêter son travail extérieur, qui, dit-elle, ne correspond pas à sa nature. Elle se plaint aussi de ses relations avec autrui et de leur hostilité. Elle dit enfin qu'elle éprouve le besoin d'une nouvelle manière d'être et de faire.
Ça s'est accumulé avec un nombre fantastique de lettres. Je n'ai pas répondu. Les gens devraient apprendre à recevoir. Je réponds très fortement, très clairement, comme ça. Même avec des mots, une phrase précise. S'ils apprenaient à recevoir mentalement, ce serait bien. Je réponds toujours. Même quand la chose est importante, quand je suis tranquille, que je n'ai pas d'action extérieure, je répète ma réponse comme ça, en faisant une formation mentale très précise qu'il devrait recevoir. Céleste, beaucoup plus en lutte avec sa vieille personnalité qu'avec les autres. N'est-ce pas, elle avait un certain genre de relation extrêmement personnelle et superficielle avec les autres. Et de ça, lentement, 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 elle sort. Mais avec l'impression que c'est les autres qui lui sont hostiles, tandis qu'elle essaye de se rattraper vraiment. C'est une période. J'ai remarqué que, surtout pour les gens qui ont eu une éducation occidentale, il faut pas changer brusquement ses occupations extérieures. Disons, la plupart des hommes ont la tendance à vouloir changer de milieu, vouloir changer d'occupation, vouloir changer d'entourage, vouloir changer d'habitude, en pensant que c'est ça qui les aide à changer intérieurement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On est beaucoup plus vigilant et averti pour résister aux vieux mouvements, aux vieilles relations, aux vibrations dont on ne veut plus. Quand on reste dans un cadre qui, justement, peut-être, est assez habituel pour être automatique. Il ne faut pas être intéressé par une organisation extérieure, parce qu'on a toujours tendance à y rentrer avec sa même, sa même manière d'être. C'est même une chose très intéressante. Pour les gens qui pensent qu'en voyageant, ça va être différent. Ça, c'est une étude que j'ai faite d'une façon très approfondie. Quand on change l'entourage extérieur, on a au contraire toujours tendance à conserver son organisation intérieure pour conserver le sens de l'individualité. Tandis que si on est tenu par force dans le même cadre, les mêmes occupations, la même routine de vie, alors les manières d'être dont on ne veut plus deviennent de plus en plus évidentes et on peut lutter d'une façon beaucoup plus précise. C'est au fond, dans l'être, c'est lui seul, n'est-ce pas, qui a de la difficulté. C'est lui qui est le plus impulsif et pauvre, le plus de mal à changer sa manière d'être. Et c'est toujours le vital qui se sent libre, encouragé, plus vivant dans les voyages. Et il a l'occasion de se manifester librement dans un milieu nouveau, parce que on a tout à apprendre, n'est-ce pas? Les réactions, les adaptations. Au contraire, dans la routine d'une vie qui n'a rien de particulièrement excitant, il sent fortement, si je veux dire, s'il est de bonne volonté et s'il a l'aspiration du progrès. Il sent fortement ses insuffisances et ses désirs. Ses réactions, ses répulsions, ses attractions, tout. Quand on n'a pas cette intense volonté de progrès, il se sent emprisonné, dégoûté, n'est-ce pas, écrasé, etc. Toute la chanson habituelle de la révolte. Quand il est arrivé, il vivait exclusivement dans le vide. Exclusivement, d'une façon violente. Alors, il y a un grand chemin à faire. Et il faut que ce vital, n'est-ce pas, qui était habitué à mener la barque, à tout gouverner, à tout décider, enfin le maître de la maison. Il faut qu'il commence d'abord par un détachement qui généralement, quand il n'est pas très raffiné, se tourne en dégoût. Un détachement général, et puis que tout d'un coup, quelquefois, lentement, quelquefois, il sent que l'impulsion, l'inspiration doit venir du dedans, qu'il n'y a plus rien qui vienne du dehors pour l'exciter. Et alors, s'il est de bonne volonté, il se tourne dedans et il commence à demander l'inspiration, l'ordre, la direction. Et après, il peut recommencer à travailler. Pour certains gens, ça prend des années. Pour certains, c'est très vite fait. Ça dépend de la qualité. Si c'est un vital raffiné, enfin d'une qualité supérieure, ça va vite. Si c'est quelque chose de très, qui va comme ça, comme un bulldog ou un but, ça prend un peu plus de temps. Il y a un long chemin à faire pour un vital qui avait l'habitude de tout gouverner et qui pensait qu'il détenait la vérité. Que ce qu'il sentait, c'était la vérité, que ce qu'il voulait, c'était la vérité, et que c'était cette vérité qui devait dominer et gouverner les autres, la vie. Ça, quand on est né dans cette illusion, ça prend longtemps. Ici, ce qui sauve, c'est si on sent que si le vital est pris d'une façon quelconque, intérieurement, s'il sent intérieurement qu'il y a quelque chose qui est plus grand que lui, alors ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui l'a aidé. Ceux qui fuient devant le changement nécessaire, ça peut vouloir dire plusieurs vies de plus. Ceux qui savent tenir le coup et qui sont intérieurement avec une intelligence supérieure généralement, qui est suffisante pour gouverner, ceux qui ont l'endurance et qui savent tenir le coup et ne pas s'inquiéter du manque de collaboration vitale, alors ça peut être fait relativement vite. C'est ça qui prend le plus de temps, en général.
Oui, il est question de la visite du pape en Inde pour le congrès eucharistique.
Tu as vu le dernier Illustrated Weekly?
Non.
Tu sais que le pape est ici.
Oui.
Pour l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, en fait?
L'Eucharistie, c'est la communion.
Ah, c'est la communion, c'est bien ce que je pensais. Il paraît, il y a l'histoire de ces congrès de l'Eucharistie dans l'Illustrated Weekly. Il paraît que c'est une dame française qui a été à l'origine de la premier congrès. Pas si longtemps, le siècle dernier, je crois. Je ne me souviens plus de la date. Et alors, il y a dans l'Illustrated Weekly, il y a un magnifique portrait du pape, avec un message qu'il a écrit spécialement pour les lecteurs de l'Illustrated Weekly.
Qu'est-ce que c'est?
Où il a pris grand soin de ne pas se servir de mots chrétiens. Il leur souhaite je ne sais quoi, et c'est écrit en anglais, et celestial grace. Alors il a essayé d'être aussi impersonnel que possible, et j'ai vu que malgré tout, ce qui est la plus grande difficulté des chrétiens, c'est que leur bonheur et leur accomplissement est dans le siècle. On m'avait lu et j'avais entendu au lieu de celestial grace, terrestrial grace. Quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose en moi qui a commencé à voir comme ça, comment cet homme est converti. Et alors, je me suis répété, et j'ai entendu que c'était pas ça, c'était vraiment celestial grace. Ça, c'est le point.
Exactement.
La réalisation divine, il croit à une réalisation divine, mais la réalisation divine n'est pas terrestre, elle est quelque part ailleurs. Dans un monde céleste, c'est-à-dire immatériel. Et ça, c'est leur grand obstacle. Parce que en matière de foi, je ne veux pas dire pour un esprit scientifique très, très précis et très clair, mais en matière de foi, il n'y a pas jusqu'à présent de preuve évidente que le Seigneur veut se réaliser ici, excepté peut-être deux ou trois illuminés qui ont eu l'expérience. Il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait eu une réalisation supramentale auparavant, c'est-à-dire avant les temps historiques, parce que les temps historiques sont extrêmement réduits, n'est-ce pas? Et naturellement, avec la question correspond toujours à une des choses que, qui sont présentées à moi dans les moments de concentration. Et alors j'ai répondu très spontanément qu'une réalisation collective, il n'y en a jamais eu. Mais il se pouvait qu'il y ait eu une ou des réalisations individuelles comme des exemples de ce qui serait et justement une promesse. Une promesse et des exemples, c'est ça qui sera. J'ai eu des souvenirs très précis, des souvenirs vécus d'une vie humaine sur Terre tout à fait primitive, n'est-ce pas? Je veux dire, en dehors de toute civilisation mentale, d'une vie humaine sur Terre qui n'était pas une vie évolutive, qui était la manifestation d'être d'un autre monde. J'ai vécu comme ça pendant un temps, n'est-ce pas? Dans un souvenir vécu. Et je vois encore, j'ai encore l'image dans le souvenir. Ça n'avait rien à faire avec justement la civilisation et le développement mental. C'était un épanouissement de force, de beauté dans une vie naturelle, spontanée, comme la vie animale, mais avec une perfection de conscience et de pouvoir qui dépasse de beaucoup celle que l'on a maintenant. Et avec justement un pouvoir sur toute la nature, autour la nature animale, et la nature végétale, et la nature minérale, un maniement direct de la matière que les hommes n'ont pas. Ils ont besoin d'intermédiaires, d'instruments matériels. Ça, c'était direct. Et c'était pas des pensées, du raisonnement, c'était spontané. Tout ça, j'ai le souvenir vécu de ça. Ça a dû exister sur la Terre parce que ce n'était pas prémonitoire. Ce n'était pas une vision de l'avenir. C'était un souvenir du passé. Ce qui fait qu'il y a dû y avoir un moment, il n'y avait pas, c'était réduit à deux êtres, n'est-ce pas? Pas l'impression qu'il y en avait beaucoup. Il n'était pas question d'enfantement, ni de rien d'animal, absolument pas, n'est-ce pas? C'était tout à fait, c'était une vie. Oui, une vie vraiment supérieure dans un cadre de nature, mais d'une beauté et d'une harmonie extraordinaire. Et pas l'impression que c'était quelque chose qui était connu. Que les rapports avec la vie végétale et la vie animale étaient des rapports spontané et absolument harmonieux. Et avec le sens d'une puissance incontestée, n'est-ce pas? Et qui n'avait même pas l'impression que ça puisse ne pas être incontesté. C'était. Mais aucune idée de, n'est-ce pas, qu'il y avait d'autres êtres sur la terre et qu'il fallait s'occuper d'eux ou démontrer ou rien, toujours, absolument rien de la vie mentale. Rien. Une vie comme ça. Comme une belle plante ou un bel animal, mais avec une connaissance interne des choses, qui était tout à fait spontané et sans effort, une nuit sans effort, tout à fait spontané. Même pas l'impression qu'il était question de manger. Dans mon souvenir, il n'était pas. Mais il était question de la joie de la vie, n'est-ce pas? De la joie de la beauté. Il y avait des fleurs, il y avait de l'eau, il y avait des arbres, il y avait des bêtes, il y avait. Et tout ça, c'était amical. Mais spontanément. Et puis, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun problème à résoudre, rien du tout arrivé. Certainement une vie sans histoire. Mais ça, c'est. Parce que le sentiment que pas du tout qu'on, n'est-ce pas, qu'on avait poussé d'en bas. C'était comme si on était tombé là, comme ça, pour s'amuser. Ça devait être avant le premier homme issu de la nature. Pas après, avant. C'était de forme humaine. Mais je ne peux pas dire que je me souviens. Si on me demandait est-ce que ça c'était comme ça, par exemple, et s'il y avait des ombres ou des mains et tout ça. Je vois, n'est-ce pas? C'était très, et c'était très souple et très lumineux. Mais en fait, c'était comme des hommes. Ce pape a annoncé qu'il allait publier, proclamer, publier un message pour les non-chrétiens. Ça, j'ai demandé à le voir. À l'entendre. Voir. Parce que dans mes conversations mentales avec lui, il y a deux choses qui sont restées très précises. C'est une espèce d'attachement politique. C'est un homme très politique, dans le sens qu'il fait des choses pour une raison, dans un but précis, avec un but précis et calculé selon sa propre compréhension pour être le plus efficace dans ce but. Un homme politique. Il a un attachement politique Murdoch. Par exemple, après avoir eu, j'ai eu pas mal, 3 ou 4 conversations avec lui, mentalement. Et tout à fait objectif parce que ses réactions étaient inattendues et c'était pour moi très spontané, dans le sens que je recevais la réponse, pas du tout celle à laquelle je pouvais m'attendre. Mais par exemple, avant son élection, j'avais eu une rencontre, il y a une partie de son être mental, d'une intelligence supérieure, qui est très formée, consciente, individualiste. J'avais eu une conversation spontanée que je n'avais pas cherché à avoir avec lui et qui était très intéressante. Mais alors, à un moment donné, je lui ai dit, avec la force que j'ai là, Je lui ai répondu à quelque chose qu'il avait dit. Je lui ai répondu, le Seigneur est partout, même aux enfers, le Seigneur est là. Et à ce moment-là, ça a fait une telle violente réaction en lui, il a disparu. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne le disais pas, je ne connaissais pas le dogme que, dans les enfers, selon les catholiques, ce qui est pire que les souffrances, que le feu et tout ça, et les souffrances, c'est l'absence du Seigneur. Il paraît que c'est un dogme, que le Seigneur est absent des enfers. Et n'est pas moi de parler de l'unité universelle, et je lui ai dit le Seigneur. Par conséquent, là-dessus, je base la chose. Et là, une autre chose dont je me souviens très clairement qui m'a frappé, c'était après son élection, longtemps avant qu'il ne soit décidé qu'il venait dans l'Inde, il était venu dans l'Inde, il était venu à Pondichéry me trouver. Pas me trouver, à Pondichéry, il était venu me trouver. Une fois à Pondichéry, il était venu me trouver et je l'ai vu là, dans cette chambre. Et nous avons eu une longue conversation, très longue conversation, et intéressante. Et tout d'un coup, n'est-ce pas, il était temps pour lui de s'en aller. Alors, et quand il s'est levé, il y avait quelque chose qui le préoccupait. Il m'a dit, quand vous parlerez à vos enfants de moi, qu'est-ce que vous leur direz ? L'ego qui voulait. Alors je lui ai dit, n'est-ce pas, je l'ai vu comme ça, je l'ai regardé et je lui ai dit, je leur dirai seulement que nous avons communié dans notre amour pour le suprême. Alors ça, il s'est détendu, il est parti. Ça m'a frappé. Ce sont des choses qui sont très objectives, ça. C'est comme ça. Et ça, c'est les petits côtés de la nature. Autrement, son rêve, c'est d'être le potentat de l'unité spirituelle humaine.